VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, Abdourahmane Dia, la présentation de cette édition de 18h30 temps universel. On est mardi 8 août 2017 au sommaire. Journéville Mortan, RDC à l'appel de l'opposition. En réaction, le gouvernement limite l'accès à Internet. En Afrique du Sud, échec de la motion de défiance à bulletin secret au Parlement contre le président Zuma. Les Kenyans ont fini de voter dans un scrutin sous haute surveillance policière. Le nouvel émissaire de l'ONU pour la Libye soutient les efforts de l'Italie pour limiter le flux de migrants en Méditerranée. Et retour sur la dette cachée du Congo révélée par les FMI. Mais est-ce vraiment possible pour un pays de cacher sa dette?
Le FMI aurait dû avoir la situation de créanciers. Ça veut simplement dire que le FMI a envoyé quelques fonctionnaires qui n'ont pas bien fait leur travail.
Interview dans la partie magazine de cette édition. Et ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Kinshasa a tourné au ralenti ce mardi suite à l'appel à la ville morte par l'opposition. D'autre part, l'accès aux réseaux sociaux était difficile, voire impossible pour des millions de personnes. Le gouvernement ayant demandé aux sociétés de télécommunications de limiter le partage d'images. De Kinshasa, la correspondance de Thierry Kamundi de Top Congo FM, notre station partenaire.
L'autorité de régulation de la poste et des télécommunications a sommé les opérateurs de télécommunications œuvrant en RDC de restreindre le partage d'images dans l'ensemble du pays. La RPTC évoque la prévention des échanges abusifs des images via les réseaux sociaux entre abonnés. Conséquence, depuis ce mardi matin, des millions de Congolais ont du mal à accéder à certains réseaux sociaux, notamment Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, Viber et autres YouTube à partir de leur mobile. Au chapitre des réactions, la Ligue des consommateurs du Congo condamne cette décision. Au niveau des médias, la décision de la RPTC est également condamnée. Cette décision tombe dans un contexte de tension à Kinshasa où des manifestations des adeptes du député national Nemo Nansemi ont fait officiellement 12 morts lundi à Kinshasa et où, à l'appel du rassemblement de l'opposition à une journée ville morte, les activités ont tourné au ralenti ce mardi. Kinshasa, Thierry Kamundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
La justice nigériane a saisi la propriété d'une valeur estimée à 37,5 millions de dollars de l'ex-ministre du pétrole, Jezani Alison Madueke, accusé de fraude et de blanchiment d'argent. La haute cour de Lagos a également ordonné hier que les revenus tirés de la location de l'immeuble, soit quelque 3 millions de dollars, soient reversés à l'État. Madame Alison Madueke, ministre du pétrole entre 2010 et 2015 sous le président Goodluck Jonathan, ainsi que présidente de l'OPEP de 2014 à 2015, est dans la ligne de mire de la commission des crimes économiques et financiers pour de nombreuses affaires de corruption. Au Sénégal, 10 supporters de foot ont été interpellés après des incidents qui ont fait 8 morts et des centaines de blessés le mois dernier à Dakar lors de la finale de la Coupe de la Ligue. Ces supporters du club de l'US Wakam, équipe mise en cause dans les échauffourées, suivis d'un mouvement de panique, ont été interpellés hier pour meurtres, coups et blessures volontaires et placés en garde à vue. Les Kenyans sont allés aux urnes aujourd'hui pour choisir leur nouveau président, les futurs sénateurs, députés et élus locaux. Le scrutin présidentiel s'annonce très serré entre le sortant Uhuru Kenyatta en quête d'un second mandat et l'opposant Raila Odinga. Le point avec Dilly Diko.
Près de 20 millions de Kenyans doivent élire leur président, députés, sénateurs, gouverneurs, élus locaux et les 47 représentantes des femmes à l'Assemblée. Le scrutin s'est globalement déroulé dans le calme, à l'exception de quelques légers incidents. Le système biométrique d'identification des électeurs a fonctionné mieux qu'en 2013, où il avait largement failli et obligé les autorités à passer au système manuel. Certains électeurs ont passé la nuit devant les bureaux de vote. Des files d'attente longues de plusieurs centaines de mètres prouvent l'engouement des électeurs. Il y a près de 41 000 bureaux de vote et quelques-uns ont ouvert avec un léger retard, suscitant la grogne et de petits mouvements d'humeur. Selon les observateurs, la crédibilité de ce scrutin repose sur la fiabilité du système biométrique et la transmission électronique des résultats que les Kenyans attendent avec impatience.
Le président sud-africain Jacob Zuma reste à son poste. Les députés ont rejeté dans leur majorité une motion de défiance contre lui. Le vote à bulletin secret avait pourtant suscité un brin d'espoir parmi ses détracteurs. Eric Manirakiza.
La motion de défiance a recueilli 177 voix pour et 198 contre et 9 députés se sont abstenus. Pour aboutir à la destitution du président Jacob Zuma, il fallait réunir au moins 201 voix. Ce vote crucial a été précédé par un débat. L'opposition comptait sur le vote à bulletin secret pour allier des députés de l'ANC. Seuls une trentaine de députés du parti au pouvoir ont franchi ce pas, ce qui est insuffisant pour pousser Jacob Zuma vers la sortie. Pour la quatrième fois depuis 2015, Jacob Zuma a donc réussi à limiter la contestation interne à conserver son poste malgré les scandales de corruption, la récession et le chômage record dans le pays. En décembre prochain, l'ANC doit choisir son nouveau leader. Les prétendants sont notamment Cyril Ramaphosa, l'actuel vice-président, et Nkosazana Dlamini-Zuma, ex-épouse de Jacob Zuma.
L'ONU s'alarme des violences en Centrafrique. Au moins 45 personnes ont été tuées depuis le début du mois de juillet. 7000 réfugiés au Cameroun. Pour un responsable onusien, ce sont des signes avant-coureurs de génocide. Clairement Angibourg.
Un décompte de l'Agence humanitaire des Nations Unies fait état de 24 décès à Batangafo et une douzaine dans le village d'Alindao après des affrontements entre des groupes armés. D'autres combats à Ngaoundaï, à la frontière avec le Cameroun et le Tchad, ont également fait au moins une dizaine de morts et forcé près de 7000 personnes à fuir. La MINUSCA a une patrouille à Ngaoundaï, mais certains habitants déplorent l'inaction des soldats onusiens. Ces violences ont, selon l'ONU, forcé plus de 450 000 personnes à fuir dans les pays voisins. Les signes avant-coureurs de génocide sont là, a déclaré à New York Stephen O'Brien, le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les affaires humanitaires.
La mission de l'ONU au Soudan du Sud, MINUS, a annoncé l'arrivée du premier contingent d'une force régionale dans ce pays déchiré par la guerre civile. L'envoi de cette force a été décidé il y a près d'un an par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce premier contingent est composé de quelques 150 soldats rwandais qui ont gagné Juba le week-end dernier, ainsi qu'une équipe de militaires népalais et une compagnie du génie du Bangladesh. Le nouvel émissaire de l'ONU pour la Libye, Ghassan Salamé, a apporté à Rome son soutien aux efforts de l'Italie pour limiter le flux de migrants en Méditerranée, malgré les critiques des défenseurs des droits de l'homme. M. Salamé a estimé que la coopération entre Rome et Tripoli est un moyen très constructif de faire face aux problèmes de l'immigration clandestine, alors que l'Italie a vu débarquer plus de 600 000 migrants depuis 2014, essentiellement à travers la Libye. Le gouvernement de centre-gauche tente de fermer la route sous la pression conjointe de l'opposition à quelques mois des prochaines législatives et de ses partenaires européens.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'ONU dénonce un usage excessif de la force au Venezuela et accuse les forces de sécurité et les milices pro-gouvernementales d'être responsables de la mort d'au moins 73 000 manifestants antigouvernementaux. Les autorités vénézuéliennes ayant refusé l'accès au pays aux enquêteurs de l'ONU, une équipe de spécialistes des droits de l'homme a interviewé à distance quelques 135 victimes et leurs familles, ainsi que des témoins, des journalistes, des avocats, des médecins et des membres du bureau de la procureure générale. La Turquie et le Qatar ont terminé avec succès leurs exercices militaires conjoints alors que la crise diplomatique sans précédent entre le petit émirat gazier et ses voisins du Golfe se poursuit. Ces manœuvres conjointes étaient composées de deux phases, l'une terrestre et l'autre maritime, et se sont déroulées de samedi à lundi, a précisé l'état-major turc. Au Yémen, 3 soldats ont été tués, 9 autres blessés dans un attentat suicide commis par un kamikaze d'Al-Qaïda dans le sud du pays. Les djihadistes d'Al-Qaïda, bien implantés au Yémen depuis 2 décennies, ont profité de la guerre entre le gouvernement et les rebelles pour renforcer leur position, en particulier depuis que le conflit s'est intensifié avec l'intervention d'une coalition menée par l'Arabie Saoudite en soutien au président Hadi. En Iran, le président Hassan Rouhani, qui vient d'être réélu, a présenté au Parlement 17 des 18 membres de son prochain gouvernement. L'équipe est composée de ministres plutôt âgés et sans aucune femme. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco présentée par Jacques Aristide.
30 millions de francs CFA, c'est le montant déboursé par le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, le FAFSI, pour financer des projets au profit des femmes de Tanda dans le nord-est du pays. Le FAFSI a été mis en place par la première dame, Dominique Ouattara, avec pour objectif d'aider financièrement les femmes des zones rurales et urbaines dans le cadre de leurs micro-projets susceptibles de créer des emplois et générer des revenus. Au Nigeria, les chefs communautaires préviennent les attaques sur les installations pétrolières dans le sud-est du pays, qui avaient entraîné le géant africain dans une récession économique, peuvent reprendre à tout moment. Le vice-président Yemi Osinbajo a réintroduit les paiements aux anciens rebelles via le programme d'amnistie, mais les autres promesses faites lors des pourparlers de paix peinent à voir le jour, notamment la construction d'une université maritime et le nettoyage des marées noires dans cette région. En Algérie, les prix des voitures flambent à mesure que les chaînes de montage fleurissent. Après Renault et Hyundai, Volkswagen a inauguré récemment une usine d'assemblage à Rélizane. Grand absent de la cérémonie, le ministre de l'Industrie, Maju Beda. Le 31 juillet, le gouvernement a suspendu tout nouveau projet de montage de véhicules après avoir dénoncé des importations déguisées.
À présent, la page de sport avec Nicolas Pinot. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Abdourahman, bonsoir à tous.
On démarre par Issa Ayatou qui tacle Ahmad, son successeur.
L'ancien président camerounais de la CAF est revenu depuis Yaoundé sur les déclarations de son successeur Ahmad. Profitant d'une audience avec le ministre camerounais des Sports, l'ancien président de la Confédération africaine de football s'est dit surpris des déclarations de l'actuel président de la CAF sur l'incapacité du Cameroun à organiser la Coupe d'Afrique des Nations. On écoute Issa Ayatou.
Moi, comme n'importe qui de bon sens, ne peut que regretter ce qui a été dit. Parce que il faut d'abord venir constater avant de sortir ce qu'il a sorti. À l'heure actuelle, le Cameroun a déjà 5 stades. Il y a 5 stades au Cameroun. On ne parle pas de ceux qu'on est en train de construire. On pouvait organiser cette CAN même à ces 5 stades-là. Ils sont là, physiques. Donc 3 ultra-neufs et 2 à reconfectionner. Le stade de Douala et le stade de Garoua. Mais les autres, que ce soit Limbé, que ce soit Bafoussam ou le stade Amadou Ahidjo ici, c'est des stades tout neufs. Personne ne peut dire que le Cameroun n'a rien. C'est pas possible. On peut compter combien de pays en Afrique qui ont ce que nous avons là. Faut pas vous leurrer. Nous sommes en avance. Et d'autre part, on ne peut pas dire que la CAF va retirer parce que quand on a eu à retirer les coupes aux gens, c'est eux qui n'ont rien fait. Par exemple, quand on a retiré à Madagascar, c'était au mois de janvier pour une compétition qui doit se dérouler au mois de mai, donc 4 mois avant. Il n'y a même pas d'inspection, on dit qu'il n'y a rien. Moi, je suis particulièrement surpris, connaissant les rouages de la CAF. Bon, il n'est pas obligé de faire ce que j'ai toujours fait pendant 29 ans, mais il est au moins obligé de rester près de la logique et de la loi.
Issa Ayatou au micro de nos confrères de CRTV.
Real Madrid, Manchester United, belle affiche de la Supercoupe d'Europe ce soir.
Coup d'envoi à 18h45, temps universel à Skopje en Macédoine. De retour à l'entraînement dimanche, après avoir été entendu par la justice, Cristiano Ronaldo est prêt à jouer selon Zinedine Zidane. José Mourinho aura presque l'intégralité de son effectif à disposition pour jouer ce match.
Et les mondiaux d'athlétisme à Londres.
Ce mardi, avant les épreuves, l'Afrique est toujours sur le podium des médailles. Le Kenya deuxième avec 2 médailles d'or, l'Éthiopie troisième avec 1 médaille d'or, les Américains toujours premiers avec 9 médailles. Hier, sur la finale du 1500 mètres, Faith Kipyegon est devenue la première Kenyane championne du monde de cette discipline. Déjà championne olympique en titre, Faith Kipyegon a pris au passage sa revanche sur les mondiaux de Pékin. Il y a 2 ans, elle n'avait rien pu faire face à Genzebe Dibaba, la grande favorite de l'épreuve et tenante du titre, l'Éthiopienne qui est totalement passée à côté de sa course. À suivre ce mardi, l'Ivoirienne Marie-Josée Talou qui revient sur la piste avec les serré du 200 mètres, la finale du 400 mètres et le Sud-Africain Wayde van Niekerk, champion olympique et recordman du monde de la discipline. La finale du 800 mètres avec le Kenyan Kipyegon Bett et puis au 3000 mètres steeple, le duel kenyan entre Ezekiel Kemboi et Conseslus Kipruto.
Merci beaucoup Nico. Écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique. À présent, les dossiers du jour. En République démocratique du Congo, la grève du personnel du gouvernement provincial du site Kivu et des agents de la régie financière DPMR se durcit. Ils revendiquent 8 à 12 mois de salaire impayé. Le camp des grévistes a rencontré hier le président de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu pour tenter de trouver une issue favorable à leurs réclamations. Les détails avec notre correspondant permanent à Bukavu, Ernest Mouero.
C'est depuis le début du mois d'août que ce mouvement de grève a commencé timidement, mais au fur et à mesure, telle une boule de neige, elle s'est durcie au point de drainer non seulement le personnel politique, administratif, ouvrier et travailleur du gouvernorat du Sud Kivu, mais aussi les agents des ministères provinciaux et services rattachés au centre des revendications, environ 8 à 12 mois de salaire impayés. Le conseiller en matière économique et d'investissement au cabinet du gouverneur du Sud Kivu, Elie Abibou.
Quelqu'un qui fait 12 mois sans avoir son salaire, vous comprenez que c'est déjà un mort. Et pourquoi j'ai appelé ça un crime d'État, puisque tout simplement, vous savez que c'est votre salaire qui vous assure votre sécurité alimentaire et la sécurité sanitaire. Et il y a des gens qui n'ont pas payé la dernière tranche des frais scolaires pour leurs enfants. Quand vous réalisez 12 mois d'impayement, c'est que les gens, non seulement ils sont clochardisés, mais ils vivent, n'est-ce pas, des dettes.
Christian Wandouma, personnel politique au sein du cabinet du gouverneur.
Qu'on nous paye, ça fait 3 mois, et au cabinet et dans le ministère, il n'y a même pas de stylo. Il n'y a même pas de papiers. Ça, c'est grave. Plus de 885 agents. Comment vivent tous ces personnels-là? Nous avons besoin de notre argent.
Du côté de la régie financière qui mobilise et encadre les recettes au Sud Kivu, la DPMR, les agents trouvent inacceptable qu'ils aient 8 mois de salaire impayés alors qu'ils constituent la cheville ouvrière dans la mobilisation des recettes. Richard Chirouza, vérificateur des impôts à la DPMR, sort les statistiques récentes et en appelle à l'intervention des autorités nationales pour décompter la crise.
On revendique parce que normalement on connaît nos réalisations et on est surpris de voir qu'après ces dernières, on peut ne pas être payé. Je vais vous donner à titre illustratif le recette du mois de mai et le mois de juin. Pendant les 2 mois là, nous venions d'encaisser plus de 1 500 000 $. Mais est-ce que vous vous imaginez qu'à 1 500 000 $, il n'y a rien qui est fait en province, mais que les agents ne sont pas aussi payés?
C'est l'on dit dans une rencontre avec le président de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, Émile Baléké. Les grévistes ont exposé leurs problèmes. Le président Baléké a promis une rencontre le mercredi prochain entre le gouverneur intérimaire, le gréviste, l'ordonnateur des dépenses provinciales, le directeur de la DPMR, le comptable public provincial de recettes pour tenter d'y voir plus clair. Nous apprenons par ailleurs que certains cabinets des ministres observent tout de même un service minimum et que parallèlement à la DPMR, les taxes et redevances sont quand même perçues. Mais pour quelle destination s'interroge plus d'un observateur? Ernest Mouro Bukavu, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique en RDC sur 97.4 à Bukavu.
Le Fonds monétaire international a confirmé samedi que le Congo-Brazzaville lui avait caché une partie de sa dette publique lors de leur discussion bilatérale en vue de parvenir à un programme d'aide et de réforme. Selon Ismaël Adjien, porte-parole du FMI, la dette publique du Congo représente 117% du PIB contre le ratio de 77% avancé en mars dernier par Brazzaville. Mais comment peut-on cacher une dette et que dire de cette déclaration du FMI? John Lindon a posé la question à l'économiste Dieudonné Essomba à Yaoundé.
Une dette implique deux parties, le créancier et le débiteur. Comment un débiteur peut cacher la dette alors que le FMI aurait dû avoir la situation des créanciers? Ça veut simplement dire que le FMI a envoyé quelques fonctionnaires qui n'ont pas bien fait leur travail. Le FMI a la situation extérieure de tous les pays. Il n'a pas besoin de se faire tromper par un pays. C'est une manière en réalité d'imputer la responsabilité à l'État du Congo. Nous avons ce qu'on appelle les données miroirs, les statistiques miroirs. Donc si le Congo cache certaines des données, ses créanciers, c'est-à-dire les gens à qui le Congo doit l'argent, doivent pouvoir dévoiler. Aujourd'hui, que le FMI a su que le Congo a touché sur les données, il a su ça comment.
On note également que de plus en plus de pays de la zone CEMAC retournent vers le FMI et de manière générale vers les institutions de Bretton Woods. Comment expliquez-vous cette situation?
Ça, c'est récurrent. Les pays sous-développés ont une mauvaise architecture dans leur système productif. Autrement dit, ils ont tendance à développer des équilibres extérieurs. Par conséquent, tant que le système productif ne change pas, tant qu'ils n'arrivent pas à équilibrer, tant qu'ils n'arrivent pas à produire au moins une partie de ce qu'ils consomment, c'est un phénomène qui va toujours se reproduire. C'est lié à un système productif qui ne fait que consommer les biens sans produire.
Et qu'est-ce qui explique donc qu'on ne puisse pas produire mais qu'on ne fasse que consommer?
La première raison, il y a déjà les politiques économiques, il y a les idéologies qui viennent de l'extérieur. Donc vous avez des pays dans lesquels on ne peut pas protéger ne serait-ce que l'industrie des biens d'usage courant. L'industrie des biens d'usage courant dans ce petit pays est décrite par la brocante qui vient d'Europe et la pacotille qui vient de Chine. Vous avez des pays qui ne sont même pas capables de produire ne serait-ce que les cure-dents, les babouches, les tasses scolaires, les cartables scolaires de leurs enfants. Donc vous vous retrouvez dans des systèmes productifs totalement paralysés. Parce que quand vous avez un système qui ne peut rien protéger, vous voulez qu'il fasse quoi? Donc c'est un problème fondamental.
C'était l'économiste camerounais Dieudonné Essomba.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Dans le centre du Mali, dans la région de Mopti, des djihadistes présumés dictent encore leur loi. Ils ont interrompu un mariage qu'ils jugeaient trop fastueux et non conforme aux normes musulmanes. Armés de Kalachnikov, ils ont dispersé la célébration et passé à tabac les mariés. Idriss Fall a joint Mamoudou Bokoum, notre correspondant à Mopti.
Effectivement, cela s'est passé il y a à peu près 2 semaines, 20 jours, dans le village de Binyanville. Binyanville se situe tout juste derrière de Mopti, à quelques 100 mètres des berges du fleuve. Alors, Binyanville, où il y avait une cérémonie de mariage, le beau-père de la nouvelle mariée a été tabassé par des individus. En fait, ils sont venus au nombre de 4 faire le repérage, voir un peu toutes les issues de la famille. Ensuite, ils se sont retournés pour aller s'habiller en l'air treillis avec leurs armes. Ils seraient venus donc disperser le mariage à travers des coups de fusil et ils ont bastonné bien sûr la nouvelle mariée, le marié lui-même, le beau-père de la fille. Et puis ils ont dispersé toute la foule. Alors donc ils ont frappé à même le père de la mariée. Finalement, ils ont mis en garde tout le village. Comme quoi que le mariage, selon la religion, ça ne devrait pas se passer ainsi. Juste faire le mariage religieux et chacun vague à ses affaires. Donc, ils ont menacé même la commune urbaine de Mopti. Ils ont donné un ultimatum de 2 semaines pour attaquer la mairie au cas où ils n'arrêtent pas de célébrer de façon officielle les mariages au niveau de la mairie de Mopti. Et ces 2 semaines sont épuisées. Et les mariages continuent donc à être célébrés à Mopti.
Cela prouve aussi que les djihadistes sont bien présents dans la région, s'ils vont faire même la police des mœurs dans les villages environnants.
Ça, c'est clair. Dans tous les deltas intérieurs du Niger, le cas se présente. Parce qu'il n'y a pas de cérémonie de mariage, pas de cérémonie de baptême, aucune réjouissance populaire, pas de football, encore moins de jeux pour les enfants. Tout est complètement interdit derrière le fleuve de Mopti, en tout cas jusqu'à Tenenku, en passant par Yuwaru et Aka, jusqu'à vers le Kemasina dans la région de Ségou. Donc toute activité populaire est interdite. Les présumés djihadistes ont interdit toute manifestation populaire au risque de venir attaquer le dit village. Et il y a la peur au ventre des gens. Chacun a peur d'aller derrière le fleuve en ce moment.
Est-ce que ce sont les membres du groupe d'Amadou Koufa ou bien il s'agit d'autres éléments?
Personne ne peut vous dire exactement de quel groupe ils sont. Par exemple, quand vous prenez ceux qui évoluent au niveau de Yuaru, ce sont les enfants du terroir qui se disent djihadistes. Au niveau des Ténénkou, c'est la même chose. C'est eux-mêmes qui font la loi. Et quand tu viens juste derrière le fleuve de Mopti, notamment à Nantaka, à Vignaville et autres, c'est des ressortissants de ces villages-là. Mais un djihadiste ne s'attaque pas aux forêts. Est-ce que les gens qui se réclament de Amadou Koufa attaquent les forêts? La question reste posée. Et en tout cas, c'est des gens qui font leur loi derrière le fleuve de Mopti. C'est ça la réalité.
C'était Mamoudou Bokoum, joint à Mopti.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24 heures sur 24.
Plus de 1000 délégués sont à Lomé pour prendre part à la 16e conférence de l'African Growth and Opportunity Act à Goa, le forum qui connaît la participation des États-Unis et des pays africains éligibles à l'AGOA vise à intensifier les échanges commerciaux entre les pays partenaires en vue de promouvoir le développement sur le continent. Reportage à Lomé de notre correspondante Kayla Rousson.
Le 16e forum AGOA a débuté ce 8 août à Lomé avec la rencontre du secteur privé et celle de la société civile. Les organisations de la société civile des 38 pays africains éligibles sous cette loi américaine veulent saisir les opportunités qu'offre AGOA pour créer de l'emploi. Fred Oladende, président de la Fondation pour la démocratie en Afrique, membre du sous-comité société civile AGOA 2017.
On a besoin de 20 millions de nouveaux emplois chaque année en Afrique. L'AGOA peut nous aider à en créer, mais pas tous. Nous avons une opportunité d'utiliser l'AGOA pour que nos jeunes ne s'aventurent pas vers l'immigration.
Tout comme la société civile, le secteur privé compte tirer profit de l'AGOA en allant à la conquête du marché américain. Bandougou Traoré du Mali est exposant à la fois AGOA.
Bon, l'AGOA, je suis venu quand même avec mes objets pour venir montrer ça aux gens qui viennent ici pour la visite. Et puis, je vais les partenaires aussi. On fait du perles en bois, on fait du perles avec du pot aussi. Donc on fait du bois du croc, comment dire, le pot en crocodile, du serpent et puis beaucoup de trucs aussi, ce qui concerne le pot. Quoi.
Pour le responsable du bureau Afrique au département d'État américain, l'AGOA est un partenariat gagnant-gagnant et c'est ce qui fait l'essence même de cette loi sur la croissance et les opportunités de développement économique en Afrique. Peter Bellerin de la délégation américaine au Forum AGOA 2017.
Notre premier but ici, en venant pour le Forum AGOA, c'est d'augmenter et d'accroître les échanges commerciaux et l'investissement dans les deux directions. Voir les exportations, la diversification des produits africains pour vendre ces produits aux États-Unis.
Du 8 au 10 août, le Togo accueille le forum AGOA sous le thème « Les États-Unis et l'Afrique, un partenariat pour la prospérité à travers le commerce ». En 2016, le taux d'exportation du Togo sous AGOA est de 1,23%, une statistique que veut améliorer Lomé en misant sur le textile, l'artisanat, l'industrie minière et l'agroalimentaire. Kailosson, Lomé, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole à nos auditeurs. En direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Réalisation Sims Lumami, présentation Abdelrahman Dia. Restez en contact sur notre page Facebook. Au revoir.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wenpanga. Wayegouya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.